Donc, on va faire notre deuxième cours d'introduction sur la tefila. Dans le premier cours, Baruch HaShem, on a pu expliquer la shita du Rambam et du Ramban, donc de Maïmonide et de Nachmanide, pour savoir est-ce que l'obligation de faire la tefila tous les jours, est-ce que c'est Minatora, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou est-ce que c'est une obligation des rabbins. Donc on a expliqué longuement les deux avis. On a parlé aussi de la raison pour laquelle on faisait la tefila. On a dit que ça correspondait aux trois patriarches. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'obligation de la kavana dans la tefila. Pourquoi dans la tefila, il y a une importance particulière sur la kavana? Si on prend d'autres mitzvot, par exemple la mitzvot de mettre les tefilin, ou la mitzvot de faire le shabbat, on ne retrouve pas que dans ces mitzvot, il y a une obligation d'avoir la kavana. Ce que je veux dire, c'est comme ça. Quand, par exemple, un juif il fait shabbat, donc faire le Shabbat, c'est une mitzvah. Ça serait bien si, en plus de faire le Shabbat, on comprendrait ce qu'on faisait, on comprendrait pourquoi on fait Shabbat, on comprendrait chaque détail. Mais le fait de ne pas comprendre ce qu'on fait, n'invalide pas la mitzvah. C'est un détail. Si tu comprends, tant mieux. Fais-moi la porte, s'il te plaît. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Dans la tefila, c'est unique. Dans la tefila, c'est unique, parce que dans la tefila, on nous demande non seulement de dire les mots de la tefila, mais en plus, on nous demande de comprendre ce qu'on dit. Comme si que... Si on comprend pas ce qu'on dit, eh ben la mitzvah de la tefila n'est pas parfaite. Et même dans certains cas, elle n'est pas bonne du tout. Comment ça se fait? D'où ça vient? Alors Maïmonide explique la chose suivante. Il explique pourquoi la mitzvah de la tefila a ce point particulier. Il dit parce que c'est écrit « Ulehovdo bechol levafrem ». Où on dit ça? « Ulehovdo bechol levafrem » ou « Froid levchechev » dans le schéma. Pardon. Il dit « Ulehovdo bechol levafrem ». Ça veut dire que Dieu nous demande de le servir de tout notre cœur. Et les Chachamim m'expliquent, c'est quoi le service du cœur? Le service du cœur, c'est la tefila. Et de là, Maïmonide explique, il dit qu'on voit que la tefila, c'est pas uniquement réciter des textes. On voit que la tefila, c'est où le bechol levafrem, c'est servir Dieu de tout son cœur. Ça veut dire qu'il faut qu'on y mette du cœur. Qui dit y mettre du cœur? C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'on dit. Quand on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne peut pas y mettre du cœur. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'essayer de comprendre un maximum ce qu'on dit dans la tefila. Comme on va expliquer, même si on ne comprend pas exactement tous les mots qu'on dit, mais au moins de comprendre le sens général de la tefila, par exemple de quoi on parle en chaque endroit, et de manière à pouvoir y réfléchir. C'est-à-dire que même si ma réflexion ne correspond pas exactement aux mots qui sont écrits, mais le fait de savoir de quoi on parle et que j'y réfléchis, ça s'appelle s'arranger avec mon cœur. Parce que sinon, c'est pas bon. Comme la Gemara dit dans le traité Brachot, elle dit que Amar Rabbi Elazar, Leolam Yimod Adam Atatsmo. Elle dit comme ça, elle dit qu'un homme doit toujours s'évaluer. Im Yachol le Kavanibo Itpalel. S'il a la possibilité d'avoir la Kavana, qui prie. Et s'il n'a pas la possibilité d'avoir la Kavana, qui ne prie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important avant de commencer cette fille-là, de se mettre en condition. Et si on sent qu'on est nerveux, ou qu'on est pas bien, ou qu'on n'est pas en état de prier, bah c'est mieux de reporter cette tefila. Même si on est venu au minyan, c'est pas grave, c'est mieux de commencer un peu plus tard, parce que la kavana c'est très important dans la tefila. Alors bien sûr, il faut venir au minyan, mais si on sent qu'on est stressé par quelque chose, etc., c'est mieux d'abord de se tranquilliser, de se calmer, et après de commencer cette tefila. Parce que quand on fait la tefila, on doit être tranquille. Et quand on fait la tefila de manière tranquille, là, on dit que Kadosh Baruch Hu, il nous écoute non seulement dans ce monde-ci, mais il nous écoute aussi dans le Olam Haba. Ça, c'est quelque chose que le Rabbi Chaim de Brisk, il explique sur Maïmonide. Il a un commentaire sur le Maïmonide, et il dit la chose suivante. Il dit, on voit que dans la tefila, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'une tefila qui n'est pas accompagnée de la kavana n'est pas du tout une tefila. C'est ça, comme je viens de vous dire, la spécificité de la mitzvah, de la tefila, par rapport aux autres mitzvot, c'est que jamais on a dit qu'un Shabbat sans kavana, c'est pas un Shabbat. Non, c'est un détail. Mais ce qu'on a de spécial dans cette mitzvah de la tefila, c'est qu'une tefila sans la kavana n'est pas une tefila. Donc on est obligé d'avoir un minimum de kavana. Alors, la kavana, ça démarre par au moins savoir qu'on est en train de prier devant Dieu, essayer de prendre conscience qu'on prie devant Dieu, et après, progressivement, on avance dans la kavana, plus on avance, et plus on essaye d'associer la kavana aux mots qu'on est en train de dire. Donc on va essayer d'associer au sens général, donc c'est ce qu'on va faire Bezrat Hashem dans les cours qui vont suivre. On va essayer d'expliquer le contexte de chaque verset, de chaque partie, de quoi ça parle. Comme ça au moins on a de quoi réfléchir. On va essayer de donner la traduction de chaque mot. Comme ça, plus on avance, et Bezrat Hashem, plus on avancera dans la Kavana. Parce que sinon, si on n'a pas du tout de Kavana, c'est pas une fila. D'accord ? C'est pas une fila, c'est simple, c'est pas une fila, ça démarre même pas. Je sais que c'est un peu dur à entendre, mais ça démarre même pas.
Celui qui est pressé, il ne peut pas tout
faire. Celui qui est pressé, autant qu'il fasse une partie de la fila, et qu'il fasse ce qu'il a à faire, et qu'il fasse une partie de la fila.
C'est difficile de ne pas laisser ses pensées s'égarer.
Vous avez raison. C'est pour ça qu'on verra qu'il y a des moments clés dans la fila, qu'il faut s'efforcer de ne pas laisser évader ses pensées en aucun cas. Comme le premier paragraphe du schéma, et les deux premières bénédictions de la Amida. Si on n'arrive pas à les deux premières bénédictions, au moins la première bénédiction de la Amida.
Jusqu'à Maganavram.
Ça, c'est deux bénédictions sur lesquelles on doit laisser sa pensée en aucun cas s'évader. Et si elle s'évader, on recommence.
C'est intéressant. Ah, on peut plus tard.
Tout de suite. Si on voit qu'elle s'évade, on s'arrête, deux secondes, distrait, on s'arrête, on se concentre pour une minute et on fait cette bracha. Parce que cette bracha-là, si on n'a pas eu la Kavana, on n'a pas fait la Amida.
Tu nous diras exactement si c'est dans la Amida.
Ouais. La première bénédiction.
Voilà.
Bien sûr qu'après, comme ils disent, Dieu fera les siens. Mais bon, c'est pas nous.
Il reconnaîtra.
Il reconnaîtra les siens.
Et nous, les arbres, ça y est.
Ça, je peux pas me mettre à sa place, mais nous, en tout cas, dans le mode d'emploi qu'il nous a donné, il a dit que celui qui appelle la Kavana au moins dans la première bracha, c'est pas bon. Ça, c'est pour expliquer l'importance de la Kavana. Et juste pour vous expliquer encore plus que ça, à quel point la Kavana c'est important, c'est pour ça que dans la majorité de la Tfila, à partir de Baruch Shahamar et jusqu'à la fin de la Mida, on n'a pas le droit de parler.
Même par signe.
On n'a pas le droit de parler. On a le droit de parler par signe, mais on n'a plus le droit de parler par signe pendant le schéma et pendant la Amida. Pendant le schéma et pendant la Amida, on ne peut pas parler par signe. Si on a besoin de parler pendant le schéma, on a besoin de faire un signe à quelqu'un, on peut le faire entre les paragraphes. On a schéma, vayam shamoa, vayomer. Donc entre les paragraphes, on pourrait faire un signe à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un y rentre, même une grande personnalité. Je ne peux pas lui dire bonjour. Je pourrais faire un oui de la tête comme ça pour dire bonjour. Assour. Pendant le schéma, pendant la Amida, c'est assour. Pourquoi c'est instauré tout ça? Alors tout d'abord, bien sûr, ça a été instauré comme une marque de respect, parce que quand on est devant le roi, on ne s'amuse pas à dire un bonjour à celui qui est à côté. T'es devant le roi, donc tu restes tranquille. Mais c'est pas seulement ça, c'est également pour la Kavana. Parce que quand on se met à parler avec celui qui est avec le voisin qui est à côté, on se met à parler, même si au début on veut parler de quelque chose de sacré, mais après la discussion, très rapidement, elle vire au profane, et après on s'égare. Une fois qu'on s'égare, il n'y a plus la Kavana. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle il ne faut pas parler. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler à partir de Baruch Shahamar. Tout est fait pour qu'on se mette en condition, pour que quand on arrive à la Amida, il n'y a plus rien qui nous dérange. Et si on se met à parler, après il ne faut pas s'étonner si on n'arrive pas à voir la Kavana.
On a un virus dans le programme.
Donc, c'est comme ça qu'il explique le Shulchan Aruch. Il dit que la raison principale, c'est d'abord parce qu'on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi pour ne pas être dérangé. Pour ne pas être dérangé dans la Kavana. Comme le Shulchan Aruch dit, « Afilu ameler shoel bishlomo » quand on est dans la Amida ou quand on est en plein milieu du schéma, même si le roi vient me demander bonjour, il dit bonjour, comment allez-vous, le président de la République qui rentre ici, le yeshivenu, on ne répond pas. Va filu nachash kaoch alakvo lo yafsik. Et même s'il a un serpent qui est entouré autour de son talon, il ne s'arrête pas. À quel moment il a le droit de s'arrêter? C'est si le serpent est en train de monter et qu'il s'approche de sa tête. Pour vous dire à quel point le schéma et l'amida, on ne touche pas. Le schéma et l'amida, on pense qu'à Dieu. On pense à rien d'autre.
J'ai le compteur électrique, j'étais chez quelqu'un en train de prier, le compteur où il y a le disjoncteur. Il s'est mis à fumer, il y a des petites flammes qui sont sorties. J'étais dans l'Amida. Et un court instant, je regardais et je continuais. Je suis allé jusqu'à ce shalom. Et après, j'ai pris un coussin.
Si c'est dangereux, il fallait s'arrêter.
Oui, mais je me dis, allez, qu'est-ce qui va se passer de plus?
Mais le serpent aussi.
Justement, le serpent, là, on parle comme la Gemara explique. La Gemara explique qu'il y a une différence entre le serpent et le scorpion.
Ouais.
C'est que le serpent, quand il est que au talon, on peut encore s'en sortir. Je sais pas, à l'époque, ils avaient l'habitude. Mais le scorpion, une fois qu'il vous a pris, il vous lâche plus. Et le scorpion, dès qu'il approche, vous pouvez vous sauver. Ouais, même pendant la Amida.
Le scorpion, il meurt, hein, après avoir piqué.
Oui, mais il tue quand même.
Oui, il tue quand même. C'est pour ça qu'il lâche. Si vous voyez une bombe à retardement, essayez de lire pour les restes de secondes.
Je sais qu'il y avait une différence entre le serpent et le scorpion. Parce qu'il y en avait un qui avait le venin chaud et l'autre qui avait le venin froid. Je ne me rappelle plus lequel, je crois que c'est le scorpion qui a le venin froid. Il est chaud le scorpion?
Le scorpion, c'est chaud.
Ouais, et le maintenant, on sait qu'il y a des serpents qu'on appelle les serpents.
Vous avez des alertes en Israël, comment ils faisaient?
Alertes. Ça s'arrête, c'est un danger, c'est un danger.
Donc là, tu te...
Oui. Dès qu'il y a un danger, il n'y a plus rien.
Je rejoins tes deux affirmations. Si tu fais ta amida, tu te rends compte à un moment donné que tu n'y es plus du tout. En ta cavana, tu peux t'arrêter pour la refaire plus tard. Tu n'y es plus. Tu es parti.
Alors, dans ce cas-là, on s'arrête. Non, on s'arrête. D'accord, et on essaye de reprendre une idée.
Et tu recommences.
Non, pas forcément. Non, je recommence à zéro que si j'ai pas eu la cavana dans la première bracha de l'amida. Si c'est pas le cas, je m'arrête, j'essaye de reprendre mes pensées. Car ça arrive des fois, vous savez, on a quelque chose qui nous dérange.
Ah,
qui...
Des fois, on est à la fin de la mise en signe. J'ai dit.
Ouais, absolument.
Parce que j'ai toujours, d'accord, comme je le répète plusieurs fois au Kol HaTanya, je dis, si on a fait une amida et qu'on a oublié un Yaleh V'Yavo ou un truc comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas du tout eu de kavana. Normalement, quand on a une kavana normale, qu'on essaie de réfléchir à la traduction des mots, on peut pas oublier. Ça s'oublie pas. C'est comme si j'oublie Shabbat. C'est comme si toute la semaine je mange un plat et j'oublie que le Shabbat il y a deux plats qui vont être servis. Bon, quelqu'un va oublier.
Et pendant la répétition. Aussi, il faut être.
La répétition, on va en parler. Oui. La répétition c'est déjà moins grave.
Mais c'est grave.
D'accord. Non, c'est moins grave la répétition. La répétition, déjà, on peut parler par signe. La répétition, s'il y a une urgence, on peut sortir de la pièce. C'est moins grave. Mais il faudra quand même la respecter. Mais là, on parle pour l'instant de la tefila. On parle pour l'instant de la tefila personnelle.
D'accord. Il marche à côté de quelqu'un qui fait la Amida, vous savez, il peut aux écoles.
Oui, on va en parler aussi.
Devant,
ça dépend de la synagogue.
Moi, je veux bien tout ça, mais alors à ce moment-là, il faut faire les 10 commandements de la Tfila et les afficher. Parce que
ça vaut le coup de
faire ça aux vivants.
Donc,
j'ai vu dans les synagogues, il y a marqué.
Donc, en tout cas, comme on a dit, même si le roi il nous demande comment ça va, on ne répond pas. D'accord. Et pendant la mida, il n'y a pas de différence, ni au milieu d'une bracha, ni entre deux brachot, on ne s'arrête pas. Quand on est lancé dans la mida, une fois qu'on est lancé dans la mida, on ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'on fait très très attention. D'accord. On fait très attention. Et d'ailleurs, il nous raconte ici dans le Meiri. Le Meiri, on l'a ramené quelques fois dans le cours de Gemara du dimanche matin. Le Meiri raconte qu'à son époque, il y avait des chachamim que tellement ils avaient peur d'être dérangés par les discussions des gens pendant la tfila, qui faisaient leur amida avant tout le monde. Ils se levaient très tôt le matin, ils faisaient toute leur prière et toute leur amida avant tout le monde. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas être dérangé. Vous savez comment c'est quand on est à la synagogue? Quand on est à la synagogue, dès que les premiers ont fini l'amida, ils se mettent à parler un petit peu, etc. Et après, c'est très difficile. Après, c'est très difficile, c'est très fatigant. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du Meiri? Ce qu'ils faisaient les gens, c'est que ils faisaient la tfila, toute la tfila avant. Les chachamim faisaient toute la tfila avant pour être sûr de ne pas être dérangé. À tel point la kavana c'est important, parce qu'on aurait pu dire, bon, on fait ce qu'on peut.
Mais tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire?
Après le Shabbat.
Ah oui? Si on n'a pas le choix et si on sait qu'on va être dérangé par la kavana ou qu'on n'aura pas besoin d'avoir la kavana, c'est évident. C'est évident que c'est la chose à faire. Et d'ailleurs, il nous dit ici le Yahar Rotvash, il a été écrit par Rabbi Yonatan Eipshit, il y a à peu près 300 ans d'aujourd'hui. Il dit la chose suivante. Il dit que qui va volonter nous arabim, ikar et der talmide chachamim, ou aller d'être filatenu shenam et kavanar et tsuya. Il a dit, si aujourd'hui on voit que dans le peuple d'Israël, on a beaucoup moins de sages qu'à l'époque, vous savez, à l'époque, quand on voit les histoires, on voit qu'il y avait des grands, grands sages. Aujourd'hui, il y a moins de sages. C'est à cause de quoi? Il dit, c'est à cause du manque de la tfila. C'est à cause qu'on fait pas assez une bonne tfila. Que si tout le monde se serait concentré dans la tfila, obligatoirement, la tfila, ça doit changer quelque chose. La tfila, ça aurait changé quelque chose, ça aurait fait que notre journée serait autre. Comme on néglige la tfila, donc du coup, puisqu'on néglige la tfila, donc la journée est négligée, normalement, l'impact de la tfila devrait rester toute la journée. C'est pour ça que le Chida nous dit la chose suivante, il nous dit que le minimum, la chen, sarich, les kaven, ou les avin, les fachot, pshat, atevarim. Alors bien sûr, on sait que dans la, si on parle de kavana, c'est sans fin. Il y a des gens qui peuvent vous faire des amida pendant 2-3 heures, parce que dans chaque, comme on l'a expliqué, Quand les Chachamim ont composé le texte de l'Amida, ils ont pensé à toutes les demandes possibles et inimaginables. Chaque lettre est réfléchie, chaque voyelle est réfléchie. Donc si on veut réfléchir à l'Amida, on peut rester des heures à réfléchir. Surtout si on veut réfléchir à l'Pi Kabbalah, selon le Kabbalah, on peut aller très très loin. Mais, nous dit le Chida, au moins, il faut essayer de comprendre les Fachot Pshat Advari. Au moins le Pshat, le sens simple des mots. Au moins de quoi on parle, comprendre de quoi on parle. Quelle est la différence entre la bracha Refaenu Hashem Venerafe et la bracha Slachanu Avinu Kichatanu? Quelle différence? Il faut qu'on comprenne la différence, au moins la traduction des mots, de comprendre dans un endroit on parle d'une chose, dans un autre endroit on parle d'une autre chose, d'accord?
Donc proscrire les.
Chez Im Omro Velibo Balimo.
Parce que je le lisais tout le temps en français avant, je suis content.
Chez Im Omro Velibo Balimo. Il nous dit que si une personne n'a pas la kavana qu'il faut, il ne pense même pas du tout, même au pshat, au sens simple des mots, ben malheureusement, cette fille-là va faire l'effet contraire. Contraire, ça veut dire qu'au lieu que ce soit un moment dans lequel il est en train de faire une louange à Dieu, il est en train de se moquer de Dieu. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Chida. Ben c'est vrai. Si on est devant le roi, je suis devant le roi, et non seulement je ne lui parle pas respectueusement, mais en plus je suis en train de parler à quelqu'un d'autre à côté. Alors c'est mieux de ne pas venir voir le roi. On se moque de lui. Il faut faire très attention à ça. D'accord ? Et d'ailleurs, le Rabbi Chaim Faladi, qui est très connu dans le monde Farat, qui a écrit un livre qui s'appelle Kafa Chaim, il explique que, bon, d'ailleurs on le sait, on le sent, qu'il y a un satan particulier qui vient nous déranger pendant la tefila. Vous savez, on dit que les meilleurs...
Dans les portables, on met en sourdine.
Non, je ne parle pas de ça, c'est bizarre.
On le connaît à l'intérieur.
On dit qu'on ne parle pas de Satan, on parle du Satan à l'intérieur.
Déjà, ils nous en disent.
On dit que les meilleures idées en business, elles viennent pendant la guerre.
Comment tu sais? Il a raison, plus.
Parce que c'est là que le Tzahara, il vient, et quand il voit qu'il n'arrive pas à nous, il va se mettre à vous rajouter des idées, des choses comme ça pour essayer de nous déconcentrer. Parce qu'il sait que c'est le meilleur moment. Comme on sait qu'il y a une histoire une fois avec un chassid. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait chez lui dans son magasin,
bon courage.
Avant de passer à la caisse, donc le chassid c'est le vendeur. Avant de passer à la caisse, le chassid disait un petit dvartora au client. Alors une fois, il y a un client qui a demandé, il dit, excusez-moi, j'apprécie que vous me direz un dvartora, mais je suis pas venu pour un dvartora, je suis venu pour acheter quelque chose. Alors le chassid lui a répondu comme ça. Il lui a dit, si pendant la Amida, on est dérangé par des pensées du business, alors à plus forte raison que pendant le business, on peut être dérangé par des pensées du business. Et du coup, il faisait comme ça à tous ses clients.
Tu vois que le fait de se mettre contre un mur ou devant là, c'est
plus facile.
C'est important.
Oui.
Parce que, par exemple, dans cette place-là, celui qui rentre,
on voit ce qui se passe.
Ouais. Cette synagogue, d'abord, la porte prend du bruit.
Ouais.
Et t'es gêné.
Et un Yetzara particulier, c'est écrit qu'un Yetzara particulier pendant l'Amida, quand on entend un bruit pour savoir qui est rentré ou qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais.
C'est la curiosité.
C'est ça, c'est sûr. En plus, la porte fait du bruit.
Ouais.
Tu entends le premier portail et le deuxième.
C'est pour ça qu'il y en a qui se mettent à côté d'un mur,
devant.
Ou bien si vous mettez ici, là, vous mettez contre le mur, mais vous tournez vers le mur. C'est pas grave, vous pouvez. Vous tournez un petit peu vers le mur. Oui, légèrement.
Tu mets le talit sur la tête aussi.
Ou le talit sur la tête.
Ah ouais.
Ça, le Mishnah Berurah, il dit que mettre le talit sur la tête, c'est une ségoula pour la kavana dans la tefila.
Ça aide beaucoup, hein, moi.
Ah, bah oui.
Ça aide beaucoup. Ouais. Parce qu'on a un champ de vision.
Pas seulement, pas seulement techniquement. On dit que mettre le talit sur la tête, le talit en général, ça mène la crainte de Dieu. Toujours. Le talit kata, le talit gdol, ça mène la crainte de Dieu. Et quand on prend ce talit-là, on couvre la tête, non seulement d'abord techniquement, on a retressé notre champ de vision, et on entend moins ce qui se passe autour, mais en plus, c'est une ségoula pour amener la crainte de Dieu. Alors, s'il y a des ségoulas, il faut les prendre, il ne faut pas passer à côté.
Je suis de ségoula.
Donc c'est bien de couvrir la tête. Faut pas avoir honte. Je sais qu'il y en a des fois qui ont honte, qui disent oui, je veux paraître trop religieux, orthodoxe. Faut pas avoir honte.
Et même les autres, ils ont honte de te déranger quand tu es en talit sur la tête. J'ai remarqué ça.
Pour qui je prends celui-là?
Il faut pas avoir honte. Non, au contraire, c'est une ségoula. C'est écrit dans Mishnah Berurah. C'est écrit clairement, c'est une ségoula. Donc oui, il y a plein de ségoulas comme ça pour ne pas être dérangé, pour entrer dans son petit monde quand on fait la Amida. D'accord. Mais bon, tout ça, maintenant, il faut être sûr que quand, comme le Meiri nous dit, quand une personne fait la tefila avec la kavana. Une fois qu'il fait la tefila avec la kavana, alors il faut être sûr que, bien sûr, que mais va télé les taxera, que ça annule les décrets. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, après, le problème qu'on a ici, c'est qu'on parle tellement de l'importance de la kavana, qu'après, ça arrive à venir, va me dire, ouais, de toutes les façons, avec tout ce que tu vas faire, ta kavana, elle sera naze, qu'est-ce que tu vas faire déjà comme kavana. Ça, il ne faut pas écouter ce que les taxera dit. Nous, quand on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de comprendre ce qu'on peut, après, c'est la Kadosh Baruch Hu qui fait le reste. Nous, seulement, il faut seulement essayer de s'efforcer. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des sidourim avec la traduction. C'est forcé à comprendre la traduction des mots. Il nous dit aussi, la Gemara nous dit comme ça, elle nous dit que, de la même manière, c'est écrit que Betarboulot, ta selecha milchama.
Manigance.
Vous savez, le slogan du Mossad, c'est Betarboulot, ta selecha milchama, c'est un verset qui est écrit, je crois, dans Job, ou je sais plus où.
On l'a lu.
C'est écrit que Betarboulot, ta selecha milchama, ça veut dire que tu feras la guerre avec des... Ouais, c'est pas des manigances, c'est des...
Des ruses.
D'accord.
C'est ça.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est en guerre, quand, c'est-à-dire le slogan du Mossad. Leur slogan, c'est ça. Quand vous allez dans leur site, c'est écrit en grand, Betar Boulot, Tassedra Milrama.
Comme par hasard.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière, quand on est dans la tuila, bah, quelque part, c'est une guerre. C'est quoi, c'est une guerre? C'est-à-dire qu'il faut s'attendre qu'on aura une guerre avec les Tsara. Avec les Tsara, ils ne nous laissera pas tranquille.
Même si on est seul.
Donc, quand on est en guerre, il faut utiliser des ruses. C'est quoi, par exemple, les ruses? Comme nous dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, dans la Gemara Brachot, Leolam alitpalel adam elam ebaït sheshbo chalonot. Dit que, il faut toujours prier, il faut s'efforcer pour faire la tefila dans une chambre, dans une maison qui a des fenêtres. Quel rapport, hein? Alors, il explique là-bas. Efchar Lomar, donc les élèves de Rabbeinu Yona, ils disent que c'est quoi la raison? Mipne shalide riyata or, tizyachev dato yoter. Parce que quand on voit la lumière, notre pensée se tranquillise. On devient plus calme. Veyuchal le kaven karaou, et on pourra avoir de meilleures kavanot. Donc vous voyez les techniques. Tout d'abord, on va dire, se couvrir la tête avec le talit. Se diriger vers un mur. Prier dans un endroit où il y a de la lumière. Parce que la lumière, ça ouvre l'esprit. Vous savez, quand on prie dans un endroit rasra, on n'arrive pas à voir la kavana. Pareil aussi, encore une autre technique écrite dans la Gemara. Kol akovea makom litfilato et le kavram bezro. Se fixer un endroit dans lequel on fait la mida.
Toujours le même.
Toujours le même. Ouais. D'accord. C'est une technique. C'est une technique d'avoir sa place. D'accord. Sa place ou son banc. Des fois, c'est un peu difficile.
Bah, mais d'avoir des places.
Voilà, on a déménagé.
D'accord. D'avoir sa place, d'avoir son coin où on se trouve pour faire la mida. C'est une ségoula. Pourquoi c'est une ségoula? Parce que quand on a ces petites habitudes, ça facilite. Ça
mais
facilite de faire la mida comme il faut.
Il y a quelque chose là-dessus.
Enfin, oui. Là-bas, la Gemara a dit que, quand non, là-bas, c'est pas comme ça qu'elle est. La Gemara a dit que quand quelqu'un a pris une place fixe et qu'un jour il change de place, Dieu dit, je suis venu le voir, il était pas là.
Jackie Cohen, il connaît ça.
Il la connaît, celle-là?
Il faut pas lui prendre sa place. Faut pas lui prendre sa place.
Une autre ségoula aussi, enfin, si on peut appeler ça une ségoula, d'accord, c'est de bouger pendant la tuila. Vous savez, quand on fait la tuila, on bouge. D'accord? Alors bon, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, parce que bon, on n'a jamais vu quelqu'un qui est devant un roi qui est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs qui sont contre. Ils disent qu'il ne faut pas bouger pendant la tuila. Ouais, quand on est devant un roi, on ne bouge pas. Mais il y a beaucoup de livres, j'ai des références, beaucoup de références ici, qui non seulement disent qu'on a le droit de bouger, mais qui disent qu'il faut bouger pendant la tuila. Et que le fait de bouger pendant la tuila, c'était un facteur qui augmente la kavana. Ça rajoute de la concentration. Alors après bon, il y en a qui bougent vers l'avant, il y en a qui bougent droite à gauche, il y a tout un...
Comme les éléphants.
Moi j'avais un rapide avec lui. Alors on a, c'est juste deux secondes. Hier soir j'ai fait le cours des jeunes filles. Je leur expliquais là-bas dans le cours, il y avait un. Il explique là-bas, hein, Yermel le Zohar, qui dit que la raison pour laquelle les juifs ont beaucoup tendance à bouger pendant la tefila et pendant l'étude de la Torah aussi. Alors que si vous rentrez dans une bibliothèque, demain vous allez voir
les bouches, elles bougent pas.
Demain vous allez voir quelqu'un en train de prendre un livre en train de bouger. C'est quoi la raison? La raison c'est parce que notre neshama est comparé à une flamme. De la même manière que la flamme elle est constamment en train de bouger. Constamment. Pourquoi une flamme elle bouge constamment? Parce que la flamme elle veut toujours partir. Dès qu'il n'y a plus de combustible, la flamme s'en va. Elle va se perdre dans des gaz qui vont aller en haut. Attends, elle va disparaître. Et même quand on arrive à l'attraper avec un combustible, elle est constamment en train de bouger. Une flamme ne s'arrête jamais. De la même manière, pourquoi? Parce que dans sa nature, elle a envie de partir. Donc, même quand tu la tiens, mais elle veut toujours partir. C'est la même chose avec la Neshama. Notre Neshama, Dieu l'a mise en bas, dans notre corps, mais elle a envie de partir. Elle a envie de remonter chez Dieu, donc c'est comme une flamme. Donc même si quand tu la bloques en bas, elle veut partir. Et à quel moment elle se rappelle encore plus fort qu'elle veut partir? Quand elle est en train d'étudier la Torah et quand elle est en train de faire la tefila. Que là, elle se rappelle comment c'était en haut. Et là, elle bouge parce qu'elle a envie de partir. Vous voyez qu'il y a une image derrière, c'est pas simplement...
Le chassid avec qui je priais il y a une vingtaine d'années, il priait comme toi, c'est-à-dire il priait un pied en avant et un pied en arrière, comme s'il allait se mettre à marcher. Mais il mettait le pied droit. Et je lui ai demandé un jour, mais pourquoi tu... Il me dit, parce que le pied droit, tu démarres avec le pied droit. Comme
si tu vas, un pied d'appel. Un pied d'appel.
Oui, lui, il fait avec le pied gauche.
Le pied gauche?
Ouais, j'ai déjà dit d'ailleurs, je fais avec le pied droit.
Je me suis jamais rendu compte.
Avec le pied droit ou avec le pied gauche, c'est pareil.
Bon, en tout cas, sachez que il y en a d'autres qui pensent, pour ça, parce que vous allez en voir certainement, il y en a d'autres qui pensent qu'on n'a pas le droit de bouger pendant la mida. On n'a pas le droit même de secouer son corps. Ouais. Donc il y a les deux, d'accord?
Ça peut gêner ton voisin. Hein.
Bon, disons, sans rentrer dans ça, il y en a qui pensent qu'on n'a pas le droit de bouger, parce qu'ils prennent comme référence la tefila de Hana, donc la tefila de Hana qu'on a lu dans l'Aftara de Rosh Hashanah. Et que dans la tefila de Hana, c'est écrit que Rak Sfatea Naot. Il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. On l'entendait même pas. Même elle ne s'entendait pas. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Amida, c'est la référence. La tefila de Hana, c'est la référence. C'est pour ça que dans la Amida, on a. Alors ça, sur ça, il y a une machloket entre le Shulchan Aruch et le Zohar. Est-ce que dans la Amida, on a le droit de s'entendre? On n'a pas le droit de s'entendre. D'accord? Donc le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de s'entendre, et au contraire, c'est même conseillé de s'entendre. D'accord? Et le Zohar dit qu'au contraire, on n'a pas le droit de s'entendre. Que même nos oreilles n'ont pas le droit d'entendre ce que notre bouche est en train de dire.
On fait quoi?
Bon, dans les faits, la majorité des communautés, la majorité des communautés suivent le Zohar. Je sais par exemple que le Chida, le Kafar Chaim, donc Rabbi Chaim Valadji, la majorité des décisionnaires, même Sepharad, suivent l'avis du Zohar, qui dit qu'on ne s'entend pas. Néanmoins, il y a une période dans l'année, qui était la période de Rosh Hashanah Kippour, dans laquelle on dit que si une personne sent que pour avoir plus de kavana, il a besoin de s'entendre, alors on lui permet de parler un peu plus fort pour pouvoir s'entendre. D'accord? Mais en général, l'amida, c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquez, l'amida en général, personne ne s'entend. Parce que sinon, en général, on devrait entendre notre voisin. Donc en général, l'amida, on ne s'entend pas.
C'est pour ça qu'on répète d'ailleurs.
Et si une personne sent qu'il a du mal à cause de savoir la kavana, et qu'il a besoin de s'entendre, il peut. Il n'y a pas de problème, il peut chuchoter. Il n'y a aucun problème. Parce que bon, c'est une machloket sur un détail entre le Zohar et le Shulchan Aruch, mais il n'y a aucun problème. Si une personne a besoin, il peut parler, il n'y a aucun problème. Donc comme je vous disais, puisqu'on a ici une machloket, parce que d'un côté il y en a qui disent qu'il faut bouger pendant la tefila, et au contraire c'est une tségoula. D'un autre côté, vous en avez qui vous dites que non, on n'a pas le droit de bouger et que c'est un manque de kavod envers un Kadosh Baruch Hu. Donc le Magan Avraham écrit dans Shulchan Aruch, il dit David Kemaravid ou David Kemaravid. Celui qui fait comme un tel, tant mieux, et celui qui fait comme l'autre, tant mieux aussi. Ou Bilvat chez Kaven, ce qui compte, c'est qu'il a la kavana. Ça veut dire que si une personne sent qu'il a plus de facilité à avoir la kavana en bougeant, pas qu'il le fasse. S'il sent qu'il a plus de facilité à avoir la kavana sans bouger, qu'il le fasse. Puisque de toutes les façons, les deux avis.
Il y a des maîtres assidus qui se jetaient littéralement par terre.
Il y a eu beaucoup, il y a eu de tout. Il y a des gens qui s'évanouissaient pendant la tefila et de tout.
Oui.
On dit sur le Baal Shem Tov, sur la Gemara Zaken, on dit qu'ils atteignaient un niveau d'exaltation tellement fort pendant la Amida, qu'en général ils tombaient par terre. Très souvent. C'est une transe très très forte. C'est-à-dire qu'à tel point que leur corps ne tenait plus. Là, ils se mettaient à trembler, ils tombaient. D'accord. Bon, je crois que c'est déjà l'heure, c'est ça. Il nous faudra encore un troisième cours, alors. Même, il nous faudra un troisième cours, peut-être même un quatrième, alors.
Sur c'est fini pour la prière.
Non.
Attendez.
Là, ça, c'était des cours d'introduction à la prière. Après, on va traduire les mots, on va expliquer. Il m'en faudra encore un autre cours. Parce qu'après...
Après, il y a un cours sur toutes les questions.
Voilà, attendez, sans vouloir vous couper, ce qu'on doit parler encore, on doit parler encore sur la forme de la forme actuelle de la tefila. C'est-à-dire, qui a composé la forme actuelle de la tefila, avec c'est-à-dire l'amida au milieu, les psouké des imra, le hachré, etc., le schéma, enfin, qui a composé... Toute cette forme-là a été composée. Et on devra parler aussi... Ça, ce sera le dernier point. Pourquoi il y a tellement de versions dans la tefila? Pourquoi on a tellement de sidourim, tellement de livres de prière? Pourquoi on n'a pas un seul livre de prière uniforme? Comment c'est devenu comme ça? Pourquoi c'est devenu comme ça? Donc on va devoir expliquer, on va devoir retracer l'histoire de toute la tefila depuis le début, depuis 2000 ans. Je vais vous donner les faits. On va retracer les faits depuis 2000 ans, on va montrer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à quelle génération, à quel moment il y a eu des bifurcations, d'accord? Pourquoi il y a eu des bifurcations, quelles bifurcations ont été prises?
Et c'est important, ces bifurcations.
Ils sont très importants. Bah oui.
Non, il y a des gros trucs.
Bon, on va en parler.
De différence.
On va en parler. Bien sûr qu'il y a des fois oui, des fois non. Mais puisqu'on nous dit que chaque mot...
Dans l'amida.
Chaque mot, il y a des différences.
Dans l'amida.
Oui?
Oui, il y a quelques mots.
Il y a quelques mots, quelques lettres qui changent. Ça change tout.
Au lieu du masculin. Certains disent, ouais. Par exemple, dans les alinéas, des étoiles, certains disent tellement.
Ouais. Il y a des mots qui ont été changés. Donc on va devoir expliquer, on n'expliquera pas les mots, on expliquera d'où est venu ce concept. Bon. Donc ça on reprendra Bezrat Hashem, et ben le prochain cours ce sera après les fêtes, si je veux. Voilà.
Mais ça tu peux tenir 10 ans avec un cours.
Non, mais
attends, si tu vas rentrer dans les profondeurs, bien
oui,
sûr,
évidemment, oui.
Mais dans l'application,
oui.
Dans l'application, mais aussi un truc, c'est pourquoi les prières sont si longues. On va avoir une
Kavana, il faut choisir ce qu'on veut. D'accord. Non,
on peut pas. Une demi-heure, ça serait du voyage compliqué, par exemple.
On gagne la kavana dans la tfila, mais on perd la tfila luminienne. Pas la même chose. Mais bon, on peut le faire. Il y a plein de gens qui font comme ça. Mon grand-père faisait comme ça. Mon grand-père, il commençait la tfila avant.
La dernière.
Voilà.
C'est bon.